France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la libre pensée.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote.
Bonjour. Au micro, Benoît Schneckenburger, président de la Fédération nationale de la libre pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Imen Habib, coordinatrice de l'agence Média Palestine. Imen Habib, bonjour.
Bonjour.
L'agence Média Palestine a été lancée suite à un appel de personnalités, de militants solidaires de la lutte du peuple palestinien au lendemain de l'agression israélienne à Gaza en 2009. Il y avait notamment Stéphane Hessel, Christine Delphi, Daniel Mermet, Clémentine Autain ou Olivier Lecourt-Grandmaison, que nous recevrons d'ailleurs le mois prochain. Imen, pouvez-vous présenter votre média et son histoire? Qu'est-ce qui a conduit à sa création et quels en sont les principes, en somme?
Alors, on a créé l'agence Média Palestine en 2011. Ça fait suite, effectivement, à l'attaque plomb durci qui avait eu lieu en 2009 à Gaza, déjà. Parce qu'on est parti du constat que la réalité de ce que subit le peuple palestinien depuis de nombreuses années était rarement, finalement, suffisamment documentée, ou pas de manière précise, en rappelant notamment le contexte, par exemple, qui est pour nous celui d'une guerre coloniale que mène Israël depuis 77 ans maintenant. On a créé cette agence pour donner des clés de compréhension à la société française et au grand public sur la situation au Proche-Orient, en Palestine, Israël. Et donc c'était important effectivement de développer une information alternative en donnant aussi la parole, et ça fait partie aussi de ce qu'on fait en termes d'information, à des acteurs et à des actrices sur le terrain, sur place, qui documentent leur vécu, leur réalité, et ça nous permet effectivement de mieux comprendre ce qui se passe sur place et aussi de pouvoir transmettre au mieux l'information.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez concrètement, singulièrement dans des conditions très difficiles d'une occupation ou d'un état de guerre, sur un territoire désormais occupé et contrôlé par l'armée israélienne, qui entend de son côté mener à la fois une guerre du récit?
Alors, on a beaucoup de difficultés à documenter précisément, notamment ce qui est particulièrement à Gaza, hein, puisqu'on sait que les journalistes ont été et sont toujours interdits d'accès dans la bande de Gaza, mais on documente, on arrive quand même à documenter de manière précise ce qui se passe à la fois à Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée. On a des journalistes qui travaillent à documenter ça, et pour dans le cadre de nos actions, par exemple, on fait des bilans hebdomadaires de la situation en Palestine, en Cisjordanie occupée, et des bilans de situation aussi dans la bande de Gaza. On fait des dossiers aussi thématiques sur certains sujets, comme celui des prisonniers palestiniens, par exemple, emprisonnés dans les geôles israéliennes. Ça fait partie de tout notre travail, qui est de documenter, en temps, comme vous l'avez dit, en temps d'occupation, ce qui est communément appelé le conflit israélo-palestinien, en termes avec nos ressources qui sont évidemment limitées, hein, puisque on est un média engagé, mais on est encore un média qui se développe, hein, et donc ça fait partie effectivement de notre travail de continuer à informer avec toutes ces difficultés finalement.
Mais alors, vous êtes un média indépendant, comment est-ce que vous êtes financé?
Alors on est financé principalement par nos lecteurs et nos lectrices. On a développé une newsletter qu'on envoie une fois par semaine, où on fait une sélection d'informations qui nous paraissent pertinentes pour informer justement au mieux. Et ce qui nous paraît aussi important, c'est de donner aussi à la fois bien sûr de l'information concrète sur ce qui se passe sur le terrain, mais aussi des analyses avec effectivement des personnes diverses de la région qui nous informent et qui nous donnent leur point de vue aussi sur là où on est le monde sur le terrain, mais aussi qui met en valeur la culture palestinienne, par exemple. On a une rubrique culture parce que effectivement, face à l'effacement du peuple palestinien, eh bien, le fait de rappeler que c'est un peuple avec une culture riche, ça nous paraît très important de mettre en lumière et en valeur cette culture qu'on cherche à anéantir, notamment avec la destruction matérielle de lieux de culture dans la bande de Gaza et de savoir également. Et donc, c'est très, très important pour nous de documenter aussi, de mettre en avant des artistes palestiniens. Voilà, c'est aussi de l'information, mais c'est aussi, quelque part, donner des alternatives, on va dire, au public pour être aussi quelque part en solidarité ou être à l'écoute de ce que vit le peuple palestinien.
Est-ce que vos travaux sont repris par la presse française ?
Alors, insuffisamment, j'ai envie de dire, mais au début de la guerre génocidaire d'Israël dans la bande de Gaza, on a fait un travail important. On était parmi les premiers à informer notamment sur la situation des journalistes palestiniens dans la bande de Gaza et qui ont été ciblés depuis le départ. Et c'est vrai qu'au début, c'était par exemple très difficile d'expliquer aux rédactions que les journalistes étaient délibérément ciblés dans la bande de Gaza. Et au fur et à mesure, en fait, tout ce qu'on disait s'est avéré juste et a été documenté par beaucoup de d'ONG qui travaillent sur cette situation. Donc progressivement, ça a été repris, mais voilà, ça reste encore marginal et on espère effectivement toujours beaucoup plus d'audience parce qu'on fait un travail de recoupement, de ressources, d'information. On a des éléments précis, chiffrés, et notamment des éléments qu'on reprend et qu'on recoupe qui viennent de l'OCHA, le Bureau pour les Nations Unies, pour les réfugiés palestiniens. Donc c'est vraiment des sources fiables et ça nous permet effectivement d'être plus précis dans l'actualité et dans les informations qu'on transmet.
Et à l'inverse, qu'est-ce que vous pensez du traitement du conflit par les médias français ?
Je pense que malheureusement, il y a eu de vrais manquements, il y a eu une défaillance énorme en fait, dans la couverture médiatique de la guerre génocidaire d'Israël dans la bande de Gaza. Par exemple, on documente la situation, on voit des personnes intervenir sur certains plateaux TV qui n'ont aucune connaissance, ou certaines radios, de la situation en fait en Palestine, alors que nous on la documente depuis plus de 15 ans. Mais c'est aussi un traitement problématique qui est que les sources israéliennes, par exemple, sont considérées comme fiables, et notamment celles de l'armée israélienne. On a vu des documents, des émissions reprendre comme source en fait des documents produits ou sans les remettre en question par l'armée israélienne. Il faut quand même rappeler que l'armée israélienne est une armée qui est actuellement coupable et accusée de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Et il y a quelques jours encore, on pensait que c'était terminé, mais il y a quelques jours encore, il y a encore le porte-parole de cette armée israélienne, Olivier Rabovitz, qui était sur les plateaux de BFM TV, par exemple. C'est un manquement gravissime, même vis-à-vis de l'éthique journalistique qui est de nous informer au mieux, on est à côté. Et ça fait partie effectivement de nous, ce qu'on souligne depuis le début. Et puis aussi, il y a une espèce d'invisibilisation aussi des voix palestiniennes que nous, on a constaté, des voix palestiniennes ou encore d'acteurs du droit international. On n'a pas vu beaucoup d'experts indépendants sur les plateaux TV, dans les émissions, expliquer le droit international. On le voit encore avec l'actualité, malheureusement. On n'a pas réussi à documenter de manière objective le génocide. Et quelque part, je le dis, cette défaillance médiatique a accompagné finalement ce génocide. Elle l'a accompagné dans le sens où on a repris le récit dominant, le récit de l'armée israélienne. Pas suffisamment de visibilisation de ce qui se passait sur le terrain, et notamment en donnant la parole, par exemple, à des journalistes palestiniens. Ça s'est fait au fur et à mesure des mois, mais ça reste trop insuffisant. Et donc, il y a ça, et puis il y a aussi effectivement le traitement médiatique dans certains mots qui sont utilisés pendant très longtemps, jusqu'à il y a quelques semaines encore ou mois, alors que ça fait depuis octobre 2023, ça fait maintenant plus de 2 ans de génocide dans la bande de Gaza. Il y a eu des expressions comme guerre Israël-Hamas, alors qu'on sait qu'en fait il y a plus de 73 000 maintenant palestiniennes et palestiniens, dont une très large majorité de civils. qui ont été assassinés dans la bande de Gaza, ce sont des mots qui déshumanisent, en fait. Et c'est pas forcément quelque chose de voulu. Ça l'est parfois, mais c'est pas forcément quelque chose de voulu par les rédactions. Mais c'est quelque chose dont il faut prendre la mesure et qu'il faut rectifier. Parce que c'est grave d'écrire ce genre de choses. Et effectivement, ce qu'on dit, c'est que non, ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre d'extermination de la population palestinienne. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas aux frontières de Gaza, puisqu'on voit qu'en Cisjordanie aussi, il y a des processus de nettoyage ethnique à l'œuvre pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Donc c'est vraiment quelque chose de gravissime qui n'a pas concerné d'ailleurs que la presse française. Il y a eu vraiment à l'échelle internationale, il y a eu un manquement médiatique. Et d'ailleurs, la rapporteuse des Nations Unies, Francesca Albanese, elle le dit dans ses interventions, qu'il y a vraiment eu à la fois une faillite de nos gouvernements, mais aussi une faillite à l'échelle des médias.
Et de l'autre côté, comment est-ce que vous contribuez directement à informer d'une part sur le génocide en cours et d'autre part sur la situation coloniale dans les territoires occupés ?
Alors nous, on fait régulièrement, une fois par semaine, des bilans de ce qui se passe à Gaza, notamment en documentant en fait à la fois en ce moment par exemple Israël a bloqué tous les points d'accès à Rafah qui étaient les seuls points d'accès pour pouvoir sortir de la bande de Gaza pour les malades graves. On documente cette situation au quotidien. On est parmi les rares sites d'information à produire ces bilans hebdomadaires pour documenter cette réalité. On fait pareil en Cisjordanie où on recense en fait toutes les violations du droit international et les agressions des colons qui se sont multipliées parce que la Cisjordanie, c'est un peu l'angle mort de Gaza finalement. Pendant Gaza, en fait, on assiste à une annexion officielle maintenant, hein, on va dire les choses, une annexion formelle de la Cisjordanie occupée où les colons se sentent complètement impunis. On a même par ailleurs des colons dans le gouvernement d'extrême droite, le plus à droite de l'histoire d'Israël. Donc c'est tout ça qu'on documente. Et effectivement, la Cisjordanie reste encore. Nous, on est effrayés par les faits qu'on relate et qu'on recense en fait sur le site de l'agence Média Palestine et ce qu'il en ressort dans les grands médias principaux français. En fait, il y a vraiment un décalage. Et ce décalage, on pense qu'il faut qu'il se réduise en fait, hein, qu'il faut que l'information se développe. Et nous, on a à cœur de prendre ce rôle-là en tout cas.
Alors, vous êtes une agence de journalisme, mais quand même, pour vous, quel est l'avenir possible pour la Palestine, tant en ce qui concerne un processus de paix que plus précisément pour l'avenir de la liberté de la presse ?
Alors, je vais être honnête, l'avenir me semble sombre parce qu'on assiste à une remise en cause du droit international qui est terrifiante. Et en ce qui concerne la question d'Israël-Palestine, il y a des faits qui sont particulièrement inquiétants ces derniers mois, puisque le 17 novembre 2025, le Conseil de la paix des Nations Unies a adopté la résolution 2803. Qui endosse le plan du président états-unien Donald Trump comme base du règlement de la guerre contre la bande de Gaza. Cette résolution, elle a tout simplement effacé le droit international applicable à la Palestine et ça remet donc en cause aussi la décision de la CPI concernant les dirigeants qui sont visés par un mandat d'arrêt, les dirigeants israéliens. Et avant ça, en fait, ce qui est vraiment aussi inquiétant, il y a eu la déclaration de New York du 29 juillet 2025, issue de l'initiative diplomatique franco-saoudienne, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 12 septembre, et qui occultait la réalité du génocide. Donc, il y a quelque part, on craint qu'il y ait un abandon du droit international. Et non seulement, en fait, les institutions chargées de l'appliquer n'ont pas pu empêcher ce génocide, mais aujourd'hui, malheureusement, ces derniers mois, en tout cas, elles se sont alignées sur des puissances qui mettent en œuvre la loi du plus fort. Donc, il y a vraiment des craintes sur le droit international, pour être tout à fait honnête. Et quand on alertait depuis plus de 2 ans de guerre génocidaire d'Israël à Gaza sur la mise à mort du droit international dans son ensemble et du fait que ça ne se limiterait pas à Gaza, eh ben on n'avait pas tort parce que on voit aujourd'hui ce qui se passe en Iran où on recense plus de 800 personnes qui ont été tuées par les bombardements israéliens et américains et au Liban aussi il y a de nombreux morts ces derniers jours. Et on voit aussi, quelque part, ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Commission européenne refuse, par exemple, de s'exprimer sur la légalité ou non des frappes américano-israéliennes sur l'Iran. L'Espagne est aujourd'hui le seul pays de l'Europe, et ça aussi, c'est un point d'alerte, à les condamner clairement. On a le premier ministre allemand qui soutient l'embargo américain contre l'Espagne, par exemple, affirmant que cela vise à convaincre les États-Unis d'augmenter leurs dépenses à l'OTAN. Puis aussi, on a vu aussi les attaques, vous les avez vues comme moi, contre la rapporteuse de l'ONU, Francesca Albanese. Et je vais reprendre un passage qui m'a marqué dans ce qu'elle dénonçait, en fait. Elle disait qu'en fait, elle avait été ciblée par trois États, alors qu'ils n'ont même pas été capables de dénoncer en fait le fait qu'il y avait 20 000 enfants qui avaient été tués depuis 858 jours. Et donc c'est absolument grave, parce que effectivement, il y a eu une attaque contre elle, et qui relève effectivement de la remise en cause du droit international, puisque elle a bien sûr été soutenue par ses collègues aux Nations Unies, etc. Mais c'est gravissime que des États s'interfère et dénonce, d'autant plus que là, on le sait, c'était des propos qu'elle n'avait elle-même jamais tenus, en fait. Donc c'est particulièrement gravissime, parce que ça participe au nouveau monde où les fake news deviennent la norme, en fait.
Et vous, en deux mots, est-ce que vous pensez que l'application des sanctions pourrait faire évoluer le conflit ?
Je pense que vraiment la clé pour mettre fin à ce conflit ou à cette guerre, c'est l'application de sanctions. C'est ce qu'on demande depuis de très très nombreuses années. C'est ce que tous les experts internationaux qui ont documenté et qui s'intéressent à ce qui se passe là-bas nous disent, en fait, c'est que il faut appliquer des sanctions. Et en fait, ça serait pas une exception, parce que on le sait aujourd'hui, l'Union européenne est le principal partenaire d'Israël. Donc en fait, à hauteur de 42 milliards par an. Donc il faut vraiment l'imposition de sanctions pour faire respecter le droit international.
Merci Imane Habib, et nous renvoyons nos auditeurs au site de votre agence Média Palestine, agencemediapalestine.fr. Le mois prochain, nous recevrons Olivier Lecourt-Grandmaison pour un entretien autour de son dernier ouvrage Oradour coloniaux français, au lien qui libère. Il ne me reste donc plus qu'à remercier Philippe Baudouin à la réalisation et Anthony Thomasson à la technique. Au revoir. Merci.